Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 25 février 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 26, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons.
Vous êtes une belle âme, finalement, hein, Victoria.
Je crois.
Ça fait 20 ans que vous lisez l'intro, et elle trouve encore matière à rire.
Et à prendre l'air surpris.
Oui.
Serge de Bekech, ma parole.
Un peu plus, j'annonçais Jean Ferré.
Et
le papier
encore...
n'était pas le bon. Dieu.
Et elle est encore plus surprise d'ajouter, et avec l'assistance de...
Victoria.
Ah, quelle surprise.
Étonnant. Bravo, félicitations. Monsieur Goffman, bonsoir.
Bonsoir Serge de Bekech, bonsoir aux auditeurs. Trice.
Ah bon, et pas de...
les auditrices, elles se sauvent.
Et le troisième sexe.
Ah, dis donc, quand aux auditrices, elles se sauvent à toutes gens.
Pourquoi?
À cause du livre.
Ah, le livre qui bat ta femme.
De votre petit camarade, là. Elles ont peur.
Bon, alors, c'est pas mon ami. Hein.
Est-ce que je peux remercier les très nombreux auditeurs, on est à plusieurs centaines, qui ont acheté mon livre « Bat ta femme tous les jours », alors qu'il est uniquement...
Est-ce qu'ils sont passés à la pratique?
Ça, il faut qu'ils me le disent, mais il y en a quelques-uns qui me le disent. Je reçois des lettres, c'est très touchant, je reçois des lettres de 5 à 10 pages. Donc j'ai vraiment, surtout de messieurs pour le moment,
avec des détails,
et donc j'ai l'impression d'avoir mis le doigt sur un sujet sensible, c'est le cas de le dire.
Et très amusant.
Alors que j'ai eu en tout et pour tout un article de Serge de Bekech dans le Libre Journal,
Dan
Brassier. Ouais, voilà. Ouais. Alors je peux rappeler l'adresse puisque je suis en vente uniquement par VPC, donc c'est 12 euros franco. Bat ta femme tous les jours, 12 euros franco, à la Librairie Nationale, 12 rue de la Sourdière, 75 01 Paris. Merci à tous.
C'est un livre choquant, moi, je trouve, vraiment. J'ai jamais essayé de battre ma femme parce que je pense que ça n'aurait pas duré très longtemps. J'aurais plutôt été battu moi-même. Enfin, voilà, c'est ça la vie. Hein.
Il y a 1 million de plaintes d'hommes battus par an.
Ah, bon. Bah.
Et il y a 14 millions en France, il y a 14 millions de gens qui vivent seuls. Donc je crois vraiment que j'ai mis le doigt sur quelque chose de sensible.
Mais justement, ceux qui vivent seuls, comment ils font pour battre leur femme alors?
Battre leur tapis. qui battent leur chien.
Bien, j'écoutais notre générique, là, qui est beau. Et je me disais qu'hier, on avait passé une très bonne soirée. Vous n'êtes pas venu, moi, la mère agitée, Victoria.
Mais non.
Très, très bonne soirée, la mère agitée.
Je ne sors pas.
Avec le cœur mongeois. Alors, ce qui est extraordinaire, ça fait 20 ans que ça existe. Et il se renouvelle, enfin, le cœur se renouvelle, toujours sous la direction éclairée de Jacques Arnoul. Et ils chantent de mieux en mieux. Et ils ont un nouveau qui vient d'arriver, là, qui a une voix extraordinaire. Donc, si vous avez l'occasion de les entendre, il faut pas la rater, parce que vraiment, ça devient vraiment un cœur d'homme superbe.
Une grande fille comme Victoria, les grimaces qu'elle fait dans le dos des auditeurs, c'est quand même incroyable.
Moi, je
son
ne fais
âge.
Pas de grimaces, jamais.
C'est dans mon dos qu'elle fait des grimaces. Et je voulais dire aussi aux auditeurs qui nous ont suivis pendant toutes ces longues années, et qui m'ont entendu plusieurs fois, au moins 3 ou 4 fois, interroger Monsieur Frelat. Vous voyez qui c'est, Monsieur Frelat? C'est l'homme qui fait du vélo couché. Il y a des gens qui font du piano debout, lui il fait du vélo couché. Il avait inventé cet appareil extraordinaire qui permet de réparer les douleurs du dos allongé, sans effort, en pédalant. Et alors ça fait des années, moi j'avais invité M. Frelat tout à fait au début à présenter son invention alors qu'elle était encore à l'état de prototype. Sous la forme d'un espèce de vieux vélo trafiqué, c'était dans un garage de la banlieue, c'était quand même quelque chose. Et là, ça y est, il y a une société qui a sorti un modèle, qui est magnifique d'ailleurs. Et on peut l'essayer, alors je le signale parce que c'est une expérience à faire, c'est formidable pour les douleurs du dos et pour étirer.
C'est cette machine-là que vous avez acquise, sans être indiscret, Serge.
Non,
vous m'avez parlé de gymnastique sur des appareils.
Non, je ne l'ai pas acquise. Je vais m'en servir à l'endroit où il est acquéri. Parce que, non, je sais même pas ce que ça coûte, mais ça doit coûter très cher à acheter. C'est un véritable appareil de... pour un institut de
kinésithérapie.
Il faut pas dire ça parce que je suis pas certain que ce soit c'est pas homologué comme ça, je suis pas sûr. En tout cas, ça marche bien, ça
dégage. Vous êtes content ou seulement courbattu?
Non, pas du tout parce que ça nécessite pas d'effort, ça ne crée aucune courbature, aucune douleur. Ça délasse très bien, ça remet les côtes en long, c'est vraiment formidable. Alors je le signale, c'est une publicité absolument gratuite. Comme d'habitude, que si vous voulez l'essayer, il faut vous adresser. Il y a un cabinet de kiné et de traitements divers à Paris qui l'a. C'est pas cher, c'est pas cher. C'est relativement, effectivement, assez moyen. Je crois que ça doit être 12 euros la séance d'une demi-heure ou d'une heure, enfin le temps qu'il faut.
12 euros pour être euro.
Oui, c'est cela, oui. Alors c'est un institut qui est 1 rue Pierre-le-Grand et qui, je crois, s'appelle l'Institut Pierre-le-Grand. 1 rue Pierre-le-Grand. Alors vous trouverez le téléphone, je ne l'ai pas, vous trouverez le téléphone dans n'importe quel bon annuaire.
C'est dans quel arrondissement?
C'est au Terne. Alors c'est que ça doit être le 17e, je pense. 17e. C'est juste devant l'église russe de la rue Daru. Voilà, c'est un renseignement technique. Alors maintenant, une bonne nouvelle, le Ribot a été relâché. Il a été remis en liberté ce matin, je crois, ou hier, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est tout récent. Et... j'espère qu'on l'aura au téléphone. Il va peut-être essayer de nous appeler. C'est pas encore sûr, mais c'est une histoire extraordinaire. Le procès a été une mascarade invraisemblable.
La presse en est fait largement l'écho parce qu'une fois de plus, on était seul à en parler depuis des mois, et d'un seul coup, je vois que ça dégringolait dans le monde, dans toute la presse, dans tous les médias.
Oui, absolument. Je crois qu'on a été les premiers à en parler vraiment d'une façon aussi retentissante. Et le procès s'est déroulé dans des conditions parfaitement grotesques, mais parfaitement grotesques, avec un procureur, une procureure...
SM
probablement, qui a commencé par expliquer que le Ribot était un charlatan, parce qu'il vendait de l'eau avec... il vendait son produit, c'était 1 litre d'eau avec 1 grain de sable dedans, et qui a enchaîné en disant que c'était extrêmement dangereux, et que c'était extrêmement toxique.
On risque d'avaler.
Donc je signale aux auditeurs que l'eau est toxique. Voilà, c'est une découverte du procureur de Bordeaux.
SM, ça veut dire syndicat de la magistrature.
J'avais bien compris.
Ah bon, non, parce que vous prenez un air ironique.
Non. Parce que l'autre explication d'SM, je sais pas. Je pense que tous les procureurs de la République le sont, plus ou moins.
Victoria est en train de faire des gestes pour nous faire comprendre que SM, ça veut dire sadomaso. Victoria, décidément.
Non, je ne suis pas obsédée.
Je ne sais même pas que ça existe.
Je pensais à Sa Majesté, vous voyez.
Bon, c'est ça.
Vous
êtes... Alors donc, le ribot est sorti et j'ai eu 2-3 informations sur la façon dont ça s'est passé. Alors, voilà, par exemple, la façon dont il a été traité. Quand ils sont allés chercher, il avait ses bagages puisqu'il est arrivé en Suisse avec ses bagages. Quand les gendarmes sont allés chercher à la frontière, la police suisse l'a remis aux gendarmes français avec ses bagages. Les gendarmes français ont collé les valises dans le coffre de leur voiture, et ils l'ont emmené faire une première halte dans une première gendarmerie, et là, ils ont abandonné les bagages de Leribaud dans la première gendarmerie, qui était à Annemasse, je crois, parce que ça tenait trop de place dans leur coffre.
Et ils ont été volés dans la nuit, évidemment.
Non. Et ils ont emmené Leribaud ensuite à Bordeaux, ce qui fait que maintenant, de Bordeaux, il va falloir qu'il retourne à Annemasse pour récupérer ses valises. Et autre détail, il est resté 3 jours sans pouvoir manger quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que les gendarmes qui s'occupaient de lui, quand il a dit au bout de 24 heures, écoutez, je pourrais peut-être avoir quelque chose à manger, un petit morceau de quelque chose, lui ont dit, mais il n'y a pas de problème, vous avez de l'argent ? Alors il a dit, ben non, j'ai pas d'argent, puisque ils sont dans les bagages que vous avez déposés dans l'autre gendarmerie. Moi, j'ai plus du tout d'argent. Mon argent est là-bas. Et... Alors, il a dit, ben, si vous n'avez pas d'argent, vous mangez pas. Ils sont allés déjeuner dans leur coin, en l'enfermant, en l'attachant selon la bonne règle, avec les menottes au radiateur. Il est resté 3 jours absolument sans manger. Le jour de son procès, il a assisté à tout le procès sans avoir mangé depuis 3 jours. Enfin, depuis 2 jours, il a repassé la journée. Et ensuite, quand il a été renvoyé dans sa cellule le soir à l'issue du procès, naturellement, dans les prisons maintenant, c'est un peu comme dans les hôtels de luxe. À partir de 22h, on ne sert plus dans les chambres. Et donc, il n'a même pas pu avoir un plat de viande froide. Donc, il est resté encore... Non, mais ça a l'air de rien. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte l'état psychologique dans lequel peut être un homme qui a vécu ça.
Oui, affronter un procès après 3 jours de jeûne. Ouais. Mais enfin, principal, c'est qu'à la gendarmerie, quand un gendarmerie...
Oui, les autres se marrent aussi bien. Et... finalement, ils l'ont relâché avec les vêtements qu'il porte depuis son arrestation. C'est-à-dire, je sais pas, ça fait une dizaine de jours qu'il a les mêmes vêtements. Comme ils lui ont pris naturellement ses lacets et sa ceinture, parce qu'on ne peut se suicider qu'avec des lacets ou une ceinture. On sait ça depuis longtemps. Donc il est sorti de prison avec une ficelle autour de la taille et des chaussures sans lacets.
Il faut, Serge, mentionner un détail quand même. Ce monsieur dont on vient de raconter comment il a été traité pour son procès, oui, avant d'être jugé, il est entre autres un expert judiciaire international. Il a permis, avec une technique de son invention, d'élucider l'affaire Chanal et plusieurs centaines d'autres.
Ouais. Et accessoirement, ce qu'on lui reproche, c'est l'exercice illégal de la pharmacie. Pour ça, il a pris 1 an dont 6 mois ferme. Et 30 000 euros d'amende.
Bon, les 6 mois ont quand même été abrégés.
Non, c'est couvert par la préventive.
Ah, voilà.
Puisqu'il a passé plusieurs mois en prévention. Et jusqu'au dernier moment, il n'était pas sûr d'être libéré, puisque le parquet français ne prétendait ne pas retrouver... C'est quand même extraordinaire. Mais vraiment, vous savez, il y a des moments où on se pose des questions. Hein. Le parquet en France a dit, mais nous n'avons pas la preuve que M. Leribaud a bien été en préventive en Suisse. Alors qu'ils sont allés chercher à la prison en Suisse, et donc on n'avait pas la preuve, donc on ne peut pas considérer que cette préventive en Suisse fait partie de la peine. Enfin voilà, j'espère qu'il viendra nous raconter tout ça à l'occasion.
Et moi, j'espère qu'on va pas aller tout de suite en cabane, parce que je m'attends à être encore plus maltraité.
Oui, c'est probable qu'on sera encore plus maltraité, mais on verra bien. Oui, le procureur, c'est Madame Vigneault, qui s'appelle Maude. Rien à voir avec Maude Marin, je m'empresse de le préciser. Maude Marin, qui est avocate et non pas procureur, et qui est adorable, et non pas Vigneault. Voilà, alors, si vous voulez entrer en contact avec... Loïc Leribaud, par l'intermédiaire de l'association qu'il défend, eh bien, on vous donnera, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais on vous donnera plus tard l'adresse et le numéro de téléphone de l'association. Voilà. Alors, dans la série des annonces préalables, parce que je fais un peu, non pas de bouche-trou là, mais on attend notre invité qui est Pierre Routier, géologue. et en attendant qu'il soit parmi nous. Et on a aussi un appel téléphonique surprise
de l'autre bout du monde,
de l'autre bout de la planète, si tant est qu'une planète est un bout, voire deux. Mais avant, je voudrais vous faire un vif reproche, mon cher Patrick. Vous êtes accusé par un auditeur de faire, une auditrice, de faire de la publicité mensongère. Et j'en ai la preuve, puisque cette auditrice qui s'était imprudemment abonnée au Libre Journal en croyant que c'était la semaine de Suzette, sur les propos, sur la base des propos que vous teniez dans cette émission, nous a prié d'annuler son abonnement. Après avoir reçu le journal qu'elle trouve un peu violent.
Excessif, non, je crois.
Excessif, voilà.
Oui, ça m'a piqué au vif, vous pensez bien, puisque je fais régulièrement la promotion du Libre Journal, et je l'indique au passage sans m'en plaindre, au contraire. Je le fais bénévolement ou à peu près. Bon, il est vrai que vous venez de m'offrir une bouteille de 2 litres de Coca-Cola et qu'on pourrait assimiler ça à un pot de vin, mais enfin je le fais à peu près bénévolement.
Ça n'aurait pas beaucoup de goût pour confondre une bouteille de Coca avec un pot de vin.
En tout cas, bon, je le fais parce que je crois en ce journal et je crois qu'il y a quelque chose pour nos auditeurs dans ce journal, dans ce Libre Journal, et qu'on peut donc le leur recommander. Alors donc je présente mes regrets à cette auditrice. Si je lui ai vendu un éléphant blanc ou un piano, elle a trouvé bon que le journal était excessif, extrémiste, je pense, par rapport à l'émission. Alors, c'est vrai que ce journal est un peu plus dur, un peu plus teigneux et combatif encore que l'émission, qu'on se laisse aller un peu plus, mais ce désabonnement immédiat d'une auditrice m'a permis, même obligé, à me poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a pour nos auditeurs dans ce journal? Est-ce que c'est normal, loyal, correct de ma part d'en faire la promotion pratiquement à chaque fois que je viens? Qu'est-ce qu'il y a pour nos auditeurs dans ce journal? Alors, j'y ai réfléchi et j'ai la réponse sous les yeux. J'ai sous les yeux, et tout le monde l'a lu ou l'a vu dans les kiosques, Paris Match de la semaine dernière, avec La Passion du Christ de Mel Gibson à la une, très très spectaculaire. Et juste à côté, j'ai la une du Libre Journal du 21 novembre 2002, il y a plus d'un an, il y a environ un an et demi, et c'était la même passion de Mel Gibson qui était la une. C'est-à-dire que nos auditeurs, ou plus exactement les lecteurs du Libre Journal imprimé, ont été tenus informés depuis un an et demi des aventures extraordinaires de Mel Gibson et de son film La Passion du Christ, qui sont aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir une radio, une télévision ou lire un journal maintenant sans entendre parler de ce film. Ils se mettent à en parler tous en même temps après avoir fait le blackout complet, après nous avoir laissés seuls avec notre ami Daniel Amiche, de Légitimiste et quelques autres, à raconter les aventures de ce film. Nos lecteurs, et c'est pour ça que je pense qu'il est légitime de proposer ce journal ici, nos lecteurs suivent les aventures de Mel Gibson et de La Passion depuis plus d'un an. Nous en avons fait un feuilleton, nous l'avons mis à la une de notre numéro 278 du 21 novembre. De même, un dernier exemple rapidement, de même que nos lecteurs sont les seuls, avec ceux de Rivarol qui a bien voulu reprendre cette information quand même sensationnelle sur les dizaines d'islamistes qui sont dans les zones de sécurité de Roissy et d'Orly. On va certainement en faire un énorme boucan dans tous les médias dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Pour l'instant, seuls nos lecteurs suivent cette affaire, ce scandale terrifiant des islamistes dans les zones de sécurité à Roissy-Orly. Alors, donc, après réflexion, je renouvelle mes regrets à la lectrice qui a pensé que nous étions la semaine de Suzette. Et aux autres, je dis, si vous voulez un spécimen du Libre Journal, comme par exemple le numéro 315 qui vient de paraître, ou le général Gallois nous explique pourquoi l'immigration-invasion est un désastre national, où nous reproduisons le serment du père Argouarche pour l'anniversaire de Louis XVI, et où François Brignon nous explique pourquoi un bien pourrait sortir de l'affaire Le Pen en PACA. Donc, si vous voulez vous procurer ce spécimen, vous envoyez un carnet de timbres, et pas 3 timbres, hein, s'il vous plaît, ou bien 5 euros. Si vous voulez vous abonner pour 1 an, vous envoyez 110 euros à l'adresse que je vais donner, papier-crayon. SDB, 4 places France Liste, 75 010 Paris. Voilà, j'en ai terminé avec le Libre Journal. J'ajoute dans la foulée deux autres annonces. D'abord, et je crois qu'il y aura une ponctuation musicale pour la dernière, puisque c'est un concert gratuit que nos auditeurs ont beaucoup apprécié l'année dernière. Donc la première annonce me concerne, je serai très certainement à Lille, dans le Nord, samedi 6 mars, en tout cas les négociations sont en bonne voie. Je prendrai part et je prendrai la parole au dîner de Flandre Identité. Donc les auditeurs de Lille et de la région qui sont intéressés téléphonent à Xavier au 06 79 72 33 50. En dernier lieu, j'annonce un concert gratuit qui a eu énormément de succès l'année dernière. Les concertistes étaient très heureux et nos auditeurs aussi. Ils sont plusieurs centaines d'auditeurs de Radio Courtoisie à s'être rendus au concert de Yuri Fedorov et Lyudmila Fedorov, qui sont solistes du Philharmonique de Kiev et qui donc vous offrent de la musique traditionnelle d'Ukraine ainsi que des œuvres classiques et des chants sacrés dimanche 7 mars à 16h, en l'église Sainte-Rosalie, 50 boulevard Blanqui, Paris 13e. C'est juste en face du métro Corvisa, et encore une fois, c'est gratuit. Voilà, Hugues, j'ai dit, et peut-être qu'on va entendre un violon dans la rue maintenant.
Oh, on va peut-être l'entendre tout à l'heure. Oui, vous voulez qu'on l'entende maintenant?
Donc, Yuri Fedorov et Lyudmila Fedorov.
Ah ben, on va écouter tout de suite, comme ça je reprendrai la parole ensuite. De Lyudmila Fedorova. C'est une voix magnifique, je veux dire. Et elle joue d'un instrument qui s'appelle la bandoura. Alors que son mari, qui s'appelle Yuri Fedorov, lui joue du bayan.
Alors il faut traduire bayan, c'est l'accordéon de concert, et bandoura, c'est la balalaïka ukrainienne. Ce sont deux Ukrainiens, bon, assez russifiés. Et on peut pas dire que ce soit du copinage, parce que oui, ce sont mes voisins, mais du coup, j'ai droit au vocaliste de Madame Fedorova toute la journée. Sauf que c'est du copinage SM, alors,
non,
comme
mais,
à Bordeaux.
En fait, c'est très bien inspiré, parce que vous dites que si, une fois qu'ils auraient fait faire tout, ils vont déménager.
On rappelle donc la date, dimanche 7 mars à 16h, 50 boulevard Blanqui, l'église Sainte-Rosalie, en face du métro Corvisart.
Serge, un auditeur proteste, j'ai fait 30 ans dans la police, je n'ai jamais vu quelqu'un laisser 3 jours sans manger.
Et ben voilà, tout arrive.
Et un autre suggère, monsieur Leribaud, ne peut-il pas porter plainte contre la justice française pour mauvais traitement, abus, absence de nourriture, devant un tribunal européen? Par exemple, le tribunal des droits de l'homme.
Mais il a déjà introduit une instance devant un tribunal européen et il a été débouté. Donc, je crois qu'il est assez débouté de la France et de l'ensemble de toutes ces histoires. Et je pense qu'il va tout simplement retourner s'installer en Irlande et qu'on n'entendra plus parler de lui. En tout cas, il a dit qu'il voulait plus mettre les pieds en France.
Oui. Et puis, le Parisien a fait un article ce matin sur Radio Courtoisie. pour annoncer le passage de M. Santini au journal d'Alain Griotteret à midi. Dernière ligne de l'article, fondée par le royaliste Jean Ferré, cette radio est réputée pour n'être pas indifférente aux thèses des diverses chapelles de l'extrême droite. Ça va faire plaisir à Santini.
Ben, c'est-à-dire que...
Il y a Copé.
Radio Courtoisie, oui, il y a Copé qui était là la semaine d'avant. Mais Radio Courtoisie, elle a un cahier de charge qui est ouvert à toutes les droites.
Toutes les droites,
donc
c'est
effectivement,
normal.
Toutes les chapelles de la droite, y compris ces chapelles que les gens du Parisien appellent extrêmes. Mais il faut dire qu'on a vite fait d'être extrême en ce moment. Par exemple, dans l'histoire de la Passion, le film de Mel Gibson, rassurez-vous, je ne vais pas apprendre le sujet
de Daniel.
Mon camarade Daniel, que je viens d'avoir au téléphone, il était à Bordeaux pour donner une conférence. C'est vraiment le commis voyageur.
Il a publié un livre ou je rêve ?
Ça y est, justement. Son livre vient de paraître. Et c'est un livre fait d'une façon très intelligente, comme tout ce que fait Daniel. Il n'a pas fait de 10 grands discours. Il a fait La Passion de Mel Gibson de A à Z. Autrement dit, il a classé par ordre alphabétique tous les des notices sur les événements, les personnages qui évoluent autour de cette affaire du film. C'est très intéressant. Ça permet d'avoir une vue très complète de tout ce qui a été fait autour de ce film, de tout ce qui a été fait pour l'empêcher de se réaliser ou pour se
d'être
réaliser
distribué.
Vraiment, et de l'empêcher pour l'empêcher d'être distribué ensuite ou pour être distribué. C'est vraiment très très intéressant, très complet. Et puis surtout, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont stupéfiantes. Alors Daniel l'a déjà dit plusieurs fois, mais enfin, il y a quand même une chose surprenante, c'est l'histoire de cet assistant du réalisateur qui a été frappé deux fois par la foudre. Et pendant le tournage, et qui s'en porte pas plus mal. Alors, on connaît assez peu de gens qui ont été frappés une fois par la foudre et qui s'en tirent, mais deux fois, ça relève de l'exploit. Et puis, il y a beaucoup d'anecdotes très très amusantes avec, par exemple, les figurants qui étaient chargés de jouer la foule qui conspue le Christ et qui lui jette des pierres pendant la marche au Golgotha. Alors ces pauvres figurants, c'est des Italiens catholiques très fervents. Et alors ils jouaient leur rôle et immédiatement après, ils allaient prier pour se faire pardonner d'avoir jeté des pierres au Christ. C'est vraiment un film dont l'histoire du tournage est passionnante. Et c'est un film qui est un signe de contradiction. Et en plus, qui repose sur un argument, moi, qui me paraît quand même ahurissant. C'est-à-dire, on nous dit, le fait d'accuser... Alors, là, il faut faire très attention à ce que je veux dire, parce que, non pas les Juifs, mais des Juifs. Alors, déjà, on dit d'accuser les Juifs d'être responsables de la crucifixion. Personne n'a jamais prétendu que les Juifs étaient responsables de la crucifixion. On dit que des Juifs ont livré le Christ aux Romains pour qu'ils le crucifient. Voilà la vérité historique. Des Juifs, les Juifs du Sanhédrin. Bon. Alors on nous dit ça, c'est de l'antisémitisme. Mais je voudrais faire remarquer une chose. Personne n'oserait me dire que je suis anticatholique si je dis que des clercs, des prêtres catholiques, ont livré Jeanne d'Arc aux Anglais pour la brûler.
Ça vous arrive de critiquer des clercs catholiques, il me semble.
Et ça m'arrive assez souvent. Mais c'est pas ça qui fait de moi un anticatholique. C'est pas parce qu'on dit les catholiques ou des catholiques ont livré Jeanne d'Arc aux Anglais pour la brûler, qu'on est anticatholique. Et donc, c'est pas parce qu'on dit des Juifs ont livré le Christ aux Romains pour le crucifier qu'on est antisémite. Donc là, il y a un mensonge fondamental. Il y a une accusation honteuse et scandaleuse qui est portée contre les catholiques d'être antisémites pour cette raison-là. Alors que c'est pas un signe antisémitisme. Je rassure plus que si on est antisémite, alors on est vraiment des fous furieux, puisque ça voudrait dire qu'on déteste la famille humaine dans laquelle le Christ est incarné. Faudrait vraiment des tordus pour ça. Hein. Pour avoir tué... Autrement dit, on serait antisémite parce qu'on reproche aux Juifs d'avoir tué un Juif. Faudrait m'expliquer ce truc-là, il y a quelque chose que je comprends pas bien.
Vous savez,
cela dit, on voit l'enragement de l'adversaire dans cette histoire. Et on le voit parce que leur comportement, c'est un comportement de fous furieux. Ceux qui sont contre la diffusion de ce film, qui l'accusent d'être un film antisémite. Par exemple, ils disent que le père de Mel Gibson est révisionniste. Bon, d'abord, c'est son droit d'être révisionniste. Mais en plus, je vois pas ce que le fait que le père de Mel Gibson ait les pieds plats ou ait des cheveux roux ou soit chauve, à foutre avec la vie avec l'œuvre de Mel Gibson. C'est deux choses totalement différentes. On voit bien qu'on est dans un amalgame tordu, vicieux, morbide, sale. On essaye d'attirer le jugement des gens sur des voies erronées, sur des voies fausses. Le fait que le vieux père de Mel Gibson, encore que d'être vieux c'est pas une tare, mais dise que lui, il pense pas que les choses se soient passées historiquement exactement comme on le raconte, ne change rien au fait qu'il y a un film, ne rejaillit pas sur le film de son fils. Autrement, il faudrait supposer que, comme le dit l'Évangile, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. Mais c'est une histoire, encore une fois, c'est une histoire de corne-cul, ça tient pas debout.
Je peux ajouter un mot, Serge ?
Ouais.
Il faut dire que derrière sa une dont je parlais tout à l'heure, Paris Match a également un excellent dossier, je trouve, je crois que vous l'avez lu aussi, et notamment un excellent article de son correspondant aux États-Unis qui, premièrement, a vu le film et deuxièmement a vu des personnalités juives qui prennent la défense de ce film, notamment en disant nous n'aimerions pas que les chrétiens se mêlent d'interpréter nos textes et de nous dicter notre vision des choses. Il faut souligner que les éléments des médias français qui aujourd'hui 25 février, puisque c'est le jour du lancement du film aux États-Unis dans 4000 salles et non plus seulement 2500, et il y a quelques mois encore nous étions donc une poignée, le Libre Journal, les Légitimistes et à cette antenne, à crier et à pleurer parce que le film était étouffé, qu'on avait tenté de l'empêcher de se réaliser, qu'on avait tenté de l'empêcher d'être distribué, que Mel Gibson ne trouvait pas de distributeur. Maintenant, non seulement il a un distributeur, mais il a 4000 salles au lieu de 2500 et il a déjà réalisé 32 millions de dollars de bénéfices le jour où le film sort. C'est quand même une victoire fantastique. Et cette victoire, à mon avis, elle est possible parce que, comme vous le laissiez entendre à l'instant, Serge, c'est une minorité d'extrémistes, que ce soit le B'nai B'rit ou l'Anti-Defamation League, suivi de quelques suiveurs mitrés ou non, ou dans les médias, mais qui sont une minorité, qui ont prétendu empêcher un cinéaste, un acteur et un cinéaste catholique de présenter dans un film la version catholique qui ressemble beaucoup à la réalité historique, je crois, et qui est même identique à la réalité historique dans ce film. Vous êtes en train de feuilleter le Paris Match, il y a une photo de toute beauté avec les responsables du Sanhédrin qui ont comploté la mort du Christ. Moi, je voudrais, pour finir, faire référence à un livre dont j'ai pu parler quand il est sorti il y a 3 ans sur cette antenne avec grâce à Anne Brassier, avec son auteur Jacques Paterno. Bon, il y a 500 livres qui sont sortis depuis 2 ans en France, sur la crucifixion. Il y en a 2 ou 3 000 dans les pays de langue anglaise. Le livre de Jacques Paterno, à l'âge d'homme, Jacques Paterno est un industriel catholique, et il démontrait, et il situait exactement la clique, la petite mafia du temple de Jérusalem, qui protégeait des intérêts économiques énormes. Il citait le chiffre précis de 20 tonnes d'argent par an en redevance, en impôts religieux obligatoires. Et il cernait exactement cette mafia de juifs, effectivement, mais cette mafia qui, dans le dos du peuple juif, ont comploté ce qu'il appelait un assassinat judiciaire en forçant la main de Pilate et en le faisant même chanter.
Et puis, avez-vous vu, il y a une auditrice demande, avez-vous vu sur la 3 l'émission « On ne peut pas plaire à tout le monde »
Oui, justement, je vais en parler.
Monsieur Fogel, et alors...
Je vais en parler, attendez, je voudrais dire quelque chose avant. On voit très très bien que c'est pas du tout par hasard que cette affaire a été montée. On le voit à des détails qui sont tout à fait révélateurs. Par exemple, justement, Paris Match illustre, les gens de la photo dont Patrick Goffman parlait à l'instant, par ces mots, une erreur indigne les historiens, la croix est fabriquée par les juifs au temple. Alors, on peut déjà faire 2 remarques. D'abord, la croix n'est pas fabriquée par les juifs, elle est fabriquée par des juifs. Il faudrait quand même apprendre la nuance. On est en France, on parle la langue française, on parle pas l'anglais. En anglais, on peut pas faire ce genre de nuance. En français, on peut très bien. Et on sait ce que ça veut dire. Et d'autre part, de prétendre que c'est une erreur historique, ça n'a pas de sens, parce que j'ai du mal à penser que les occupants romains se déplaçaient avec leurs propres charpentiers. À mon avis, ils prenaient des gens dans le pays, et dans le pays, c'était des juifs. Donc, de dire que ce sont des artisans juifs qui ont fabriqué les poutres sur lesquelles le Christ a été crucifié, c'est pas de l'antisémitisme, c'est une très forte probabilité historique. Mais cette sottise qui est écrite par Paris Match, elle est reprise mot pour mot dans Le Parisien, aujourd'hui, qui dit, alors c'est extraordinaire, la même chose exactement, c'est-à-dire que cette information, ce mensonge historique indigne les historiens. Alors très franchement, si la seule chose dans le film qui indigne les historiens, qu'on ait prétendu que des juifs avaient fabriqué la croix du Christ, on peut dire que c'est quand même pas un grand crime. Hein. Mel Gibson, c'est pas le même combat. Vous allez avoir du mal à faire croire que c'est la même chose. Bon. Je voudrais dire autre chose. Il y a un papier qui coiffe le dossier de Paris Match et qui est signé par Alain Genestard, qui est probablement un des personnages les plus nocifs de la presse française. Eh bien, Genestard...
Oui, mais comme il n'a pas vu le film, vous comprenez bien.
Attends, justement, c'est ça. Genestard nous dit, il fait un édito complet sur le film en disant que c'est probablement un film antisémite. Et alors il découvre, lui qui doit être catho à peu près comme mon chien, il découvre que c'est l'homme qui a tué le Christ, il y a 2000 ans, accomplissant ainsi un crime contre lui-même, contre l'humanité. Mais ça, c'est de la crétinerie. C'est de la crétinerie, c'est pas un crime contre l'humanité, c'est un crime contre Dieu. C'est un déicide, ça n'a rien à voir. Et justement, ce que dit Genestard, ça c'est bien à propos de Franck, ça veut dire que s'en prendre à Dieu, c'est s'en prendre à l'homme. Autrement dit, c'est une façon de diviniser l'homme. Et voilà, le débat sur ce film, il porte là-dessus. Il porte sur la conception de Dieu et de l'homme par rapport à Dieu. Et nous pensons que Dieu est Dieu et que l'homme n'est que l'homme. Et que quand on tue Dieu, on fait pas un crime contre l'humanité, on fait un déicide, ce qui est infiniment plus grave et plus lourd dans ses conséquences. Mais la couronne de tout ça, si j'ose dire, c'est que Genestard, à la fin de son papier, il dit qu'il n'a pas vu le film. Alors, de qui se moque-t-on dans cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'escroquerie qui consiste à blatérer, à déblatérer sur le contenu d'un film qu'on n'a même pas vu? Ce type se fout de notre gueule. Il faut quand même dire les choses clairement. Il y en a marre de se faire traîner dans la boue par des types qui parlent sans savoir de quoi, qui disent n'importe quoi, qui obéissent à des mots d'ordre. Hein, on leur dit, voilà, ce film sera antisémite. Et tous, ils partent derrière, comme des petits soldats au combat, en disant, c'est un film antisémite. C'est invraisemblable. Le résultat, parce que ce serait ça, je m'en fous, après tout, toute cette bande de larbins, toute cette valtaille du Sanhédrin, j'en ai strictement rien à foutre. Mais la vérité, c'est qu'en face de ça, tout le monde est à plat ventre. Et la France va être le seul pays où ce film ne sera pas diffusé. Il ne sera pas distribué parce qu'il n'y a pas un seul cinéaste en France qui a les...
Cojones
de distribuer le film. Mais quelle honte! Vous vous rendez compte dans quel pays on vit aujourd'hui? Un pays de lopettes, c'est tous des dégonflés, des lâches. Il y a 600 000 personnes qui font la loi en France. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais c'est pas possible. On peut pas accepter ça. Ce film doit sortir. Et vraiment, il faudrait lancer un gigantesque boycott des salles de cinéma. Faudrait que nous, en tout cas, on s'abstienne d'aller au cinéma pendant au moins... Moi, j'y vais jamais, donc ça me privera pas beaucoup. Enfin, ceux qui y vont pourraient s'en priver pendant des mois pour dire à ces gens-là, vous avez des salles de cinéma, vous diffusez les pires ordures, des films de cochonnerie, des saloperies invraisemblables, comme le film de cette toquée de Breillat et tout, immondice, pendant une heure et demie, on voit un type contempler une femme dans son intimité la plus intime, Et le rôle étant joué par cette espèce de gros porc de Rocco Siffredi, vedette du cinéma porno. Alors, ça sort partout. Il y a des papiers dithyrambiques dans toute la presse.
Oui, mais personne ne va le voir.
Mais la passion du Christ est interdite. Mais vous n'avez pas honte, bande de...
Serge, je comprends mal...
De colère dans cette histoire.
Je comprends mal que vous soyez tellement en colère.
Si,
pour une fois que nous sommes...
Vous vous trompez, Patrick, je vous l'ai dit. On l'écrit dans le journal. Dans le prochain numéro du journal, on affronte nos opinions. Vous dites que c'est un bien, que le film fera un malheur en France. Je vous dis, c'est pas vrai. Ce film est un film interdit, c'est un film maudit. Et tout le système s'emploiera, tout le système, toute cette valtaille, tous ces larbins, tous ces sicaires du Sanhédrin s'emploieront pour que le film ne soit pas diffusé.
Mais Serge, est-ce que ça situe... Oui, alors je reprends, je m'étonne de votre colère dans la mesure où j'ai l'impression que pour une fois, nous sommes du côté du manche.
Non,
pendant un an et demi, nous prêchons dans le désert pour ce film et c'est un blackout total.
Ben on verra.
Et d'un seul coup, c'est à la une partout. Alors, assorti comme d'habitude de commentaires désagréables. Mais vous savez que le plus grave, c'est le silence, c'est la conspiration du silence.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, l'idéal, c'est qu'on nous crache dessus, qu'on nous insulte pourvu qu'on parle de nous. Mais moi, je suis pas d'accord.
C'est Sacha Guitry qui l'a découvert.
Mais Sacha Guitry. C'est pas le bon Dieu.
Mais il est pas bête quand même.
Mais je me fous de ces histoires. C'est pas vrai. Quand vous voyez le Christ est sali, les chrétiens sont insultés à longueur de page dans une presse pourrie par des journalistes pourris. Et il faudrait qu'on s'en félicite et qu'on dise qu'on a gagné parce qu'on parle de nous. Merde, moi je suis pas d'accord.
Ben c'est dommage, c'est que vous n'ayez pas vu l'émission sur la 3.
Alors si, justement, je vais en parler très bien.
Alors, mais laissez-moi vous dire.
Cette espèce de petite lopette,
attendez,
encore une
pousse,
fois. Attendez,
pousse.
Je termine parce que il s'est passé un truc. Mocky, ce cinéaste ringard. Quand le père Charleroux a parlé, on l'a pas entendu. Il a fermé son claque-merde. Il y a pas d'autre mot. Personne n'a bronché. Et quand ce vieux prêtre, ce vieux saint prêtre de 91 ans a été parti, Mocky a dit « Ah, le vieux, s'il est plus pédophile, c'est parce qu'il est trop vieux pour ça, cette espèce de porc. » Et c'est ça qu'on a à la télé, et ce petit merdeux de Fogiel, c'est ça qui sort. Et il a pas bronché, ils ont tous ricané comme des... Mais vous croyez pas qu'on en a marre de tout ça, de ces cochonneries ?
Oui, mais
vraiment, il y a, c'est insupportable, enfin.
Ce révérend père Jean Charleroux, on l'a tout de même entendu, et il était excellent. Il s'est pas démonté une
seconde. Justement, c'est pour ça que. C'est...
Et Marie Laforêt, vous avez entendu Marie Laforêt ?
C'est toujours la même chose, ma pauvre cocotte. Eux, ils ont la parole. Marie Laforêt a eu la parole 2 minutes. Le père Charleroux, il a eu la parole. Il a pu expliquer son truc. Et puis il est parti. Et une fois qu'il a été parti, la meute des hyènes, des chacals et des coyotes s'est mise en route. Et alors là, on a eu la vomissure de cette espèce de type, ce Mocky, qui avait déjà fait un film immonde sur Lourdes. Et vraiment, il y en a marre d'être insulté comme ça. Les juifs ne toléreraient pas une seule seconde qu'on parle d'eux comme on parle des chrétiens en France. Est-ce que oui ou non on va nous foutre la paix et nous respecter? Ou est-ce qu'il faut qu'on fasse comme les islamistes? Parce que ça aussi, ça peut se faire. Je veux dire, si vraiment il faut en arriver là,
oui.
Pour être respecté.
Non, le micro, le micro.
Il n'y a pas de danger. Serge, vous voyez qu'il est 18h45 ici. Il est midi 45 sur la côte est des États-Unis. Et en ce moment même, La Passion du Christ de Mel Gibson est en train d'être projetée dans 4000 salles.
Oui, aux États-Unis.
Avec plus de la moitié. Mais aux États-Unis, nous exprimions depuis des mois nos craintes que, premièrement, le film ne se réalise pas. Et quand il a été réalisé, par-dessus tous les obstacles, qu'il ne trouve pas de distributeur, nous l'avons dit et répété, il avait là-bas des ennemis plus puissants encore qu'ici. Les ennemis de ce film sont plus puissants là-bas qu'en France.
Non, je suis pas d'accord.
Mais Serge, aussi bien placée qu'elle soit, une minorité reste une minorité. Majorité est chrétienne dans le monde entier.
C'est vous qui faites une confusion. Justement, vous faites la confusion qu'il ne faut pas faire. Parce que quand vous dites... La minorité est plus puissante aux États-Unis qu'en France. Ça veut dire que, en fait, vous prenez compte du fait que la minorité israélite est plus nombreuse et plus puissante aux États-Unis qu'en France. Mais c'est pas eux du tout qui sont en cause. C'est pas eux du tout. Je suis absolument convaincu que l'immense majorité des juifs de France ne se contrefoutent absolument de cette histoire. C'est pas eux qui sont en cause. C'est pas eux qui instrumentent l'interdiction de ce pays. C'est de ce film dans notre pays. C'est un tout petit noyau de mafieux ténébreux qui a asservi une bande de larbins journalistiques. Voilà la vérité. Donc, il faut arrêter de nous présenter cette histoire comme une espèce de débat entre les juifs de France et les catholiques de France. C'est pas ça, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est au niveau d'une petite mafia qui a dit « on fera ce qu'on veut ». Et la meilleure preuve, c'est que Mme Chemla, sur son site internet,
oui,
elle se félicite de ce que, et c'est elle qui emploie le mot de « lobby », est obtenu l'interdiction en France de la projection du film de Mel Gibson.
Il n'est pas interdit.
Mais ça revient au même. Que me faites rire, il n'est pas interdit. S'il n'y a pas un mec qui le diffuse, c'est exactement comme s'il était interdit.
La Nef, le mensuel La Nef, pense qu'il devrait être diffusé en juin 2004. Est-ce que vous voulez faire un pari, Serge, devant nos centaines de milliers d'auditeurs?
Je ne fais pas de pari sur des sujets comme ça, mais moi je vous dis qu'il ne sera pas diffusé. Ou il sera diffusé dans une salle à Paris. Il faudra qu'avec Daniel Amiche, on fasse une organisation associative pour pouvoir le projeter dans les salles paroissiales, à condition que le curé le laisse faire.
Et
ce
moi,
qui n'est pas prouvé.
Alors moi, je ne parie pas non plus, puisque vous ne voulez pas, mais je vous dis que ce film sera un triomphe dans le monde entier.
Oui,
et que nous sommes du côté du Manche, et qu'il n'y a vraiment pas de quoi se mettre en colère.
C'est pas du côté du Manche, c'est pas le problème du côté du Manche. Le problème, c'est que ça sera peut-être un triomphe aux États-Unis, sans pas dans le monde entier, parce que je peux vous dire que dans les pays arabes, en Afrique et en Asie, ils s'en contrefoutent. Mais donc, ça sera un succès peut-être aux États-Unis, peut-être dans certains pays d'Europe, mais en France, c'est un film qui sera interdit. Or, il y a une dimension comment dirais-je, une dimension surnaturelle dans cette affaire, une dimension eschatologique qui oppose cette dimension eschatologique, elle est liée au fait qu'il y a une opposition fondamentale entre la destinée de l'Israël vétérotestamentaire et talmudique et la destinée de la France, fille aînée de l'Église. Ça, je le dis depuis des années, c'est un antagonisme fondamental, un antagonisme surnaturel. Et pourquoi le système veut-il absolument interdire la diffusion de ce film en France? C'est à cause de ça. C'est parce que ce film, il est d'une certaine manière aussi important que le Saint-Suaire, et on voit bien que le déchaînement contre le film est le même que celui qui a été instrumenté contre le Saint-Suaire au prix de tous les trucages, de tous les mensonges, de toutes les corruptions, y compris les corruptions des plus grands savants du British Museum, pour essayer de faire croire que le Saint-Suaire est un faux, alors que tout démontre que c'est une vraie relique de la Passion du Christ. Voilà, je pense qu'on est en dehors, si vous voulez, de ces considérations d'affrontement économique ou même d'affrontement de force. On est dans un combat qui est de dimension surnaturelle. Voilà. C'est mon opinion, hein, je peux me tromper, mais c'est mon opinion.
Les derniers petits commentaires. Une auditrice sur TF1, Claire Chazal, a dit que Mel Gibson réécrivait les évangiles.
elle réécrit son prompteur, elle.
C'est incroyable.
Aux informations de 20h sur la 2, hier, la commentatrice a prétendu que les intégristes catholiques aux États-Unis avaient acheté tous les billets du film La Passion.
Mais non, ce sont les églises protestantes en majorité.
Mais oui, mais c'est elle voulait dire chrétien.
C'est n'importe quoi.
Alors, donc, Corpus Christi, dont un réalisateur a été invité sur France 2 pour commenter le film, il a été dit par des historiens théologiens que la crucifixion existait aussi dans le passé chez les Juifs. Ce matin, Radio Notre-Dame a annoncé que Mel Gibson avait, sous la pression, supprimé le passage « Le sang retombera sur vos têtes
ouais, ». Matthieu 25, 27.
Le sang de ce juste retombe.
Matthieu dit que les Juifs, au moment de la crucifixion, dit que son sang retombe sur nos têtes. Et bon, c'est saint Matthieu qui le dit. Et Gibson, par un geste de bonne volonté, a trouvé que, étant donné qu'il ne citait pas la totalité des évangiles, si cette phrase vraiment rapportée par saint Matthieu était de nature à choquer gravement, il pouvait la supprimer, ce qu'il a fait. Ce qui est bien la preuve, d'ailleurs, que la volonté n'est pas d'affronter, de dénoncer les Juifs comme déicides. Il est évident que mon petit voisin, M. Cohen, c'est pas un assassin du Christ. Enfin, vraiment, il faut être tordu pour avoir des idées pareilles. Mais c'est vraiment des idées tordues.
Je suis chrétienne, dit cette auditrice d'origine juive, et il y en a marre de cette minorité juive qui parle en son nom propre et non au nom des Juifs de France.
Voilà, exactement. Ils prétendent parler au nom des Juifs de France.
Une auditrice nous dit, Luc Besson a affirmé qu'il se chargerait de la distribution de ce film.
Et voilà.
Je l'ai entendu sur Europe 1, moi aussi.
Mais il y a une semaine.
Serge.
Et depuis, plus personne n'en a parlé.
Ça va venir. Serge, n'oubliez pas qu'il y a l'espérance. Priez, il peut y avoir des miracles.
Jeanne d'Arc disait, les hommes d'armes combattent et Dieu donne la victoire. Si on ne combat pas, on n'aura pas de victoire. Voilà. Le ciel, c'est pas un distributeur de faveurs.
Et n'oubliez pas que le pape, après avoir vu le film, a dit « c'est comme c'était ».
Ça voilà. S'est passé ainsi. Lui, il a vu le film, ça fait une deuxième différence avec Jeunesse Star.
Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Non? Pas encore. Bon, alors.
Est-ce que je peux vous dire aussi, je vous poser une question à propos des mésaventures de Jean-Marie Le Pen? Un auditeur vous demande, est-ce lui qui a provoqué l'incident? Est-ce une racaillerie de la République? Ou encore, n'est-ce pas que les gens de la droite, de la bande des quatre, l'ont fait exprès pour exaspérer l'électorat lepéniste et faire voter à tout va, c'est-à-dire repasser la patate chaude à la droite nationale, vu que le pays est devenu ingérable.
Je vais vous dire historiquement comment ça s'est passé. C'est extrêmement simple et c'est extrêmement navrant. Il y a eu une réunion qui s'est passée à Nice, en petit comité. Il y avait à peine une dizaine de personnes avec Jean-Marie Le Pen pour étudier les conditions de sa candidature à Nice, en PACA. Au cours de cette réunion, quelqu'un a fait remarquer qu'il y avait un danger de voir la candidature de Jean-Marie Le Pen repoussée du fait que l'adresse ne permettait pas d'obtenir un reçu fiscal. À ce moment-là, quelqu'un a dit « mais c'est pas un problème puisque de toute façon ça a déjà été accepté lors des élections précédentes ». ça sera accepté cette fois aussi. C'est d'ailleurs pas à nous de soulever ce genre de questions. On ferme le dossier. Le lendemain, Forcari dans Libération sortait l'affaire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a assisté à cette réunion, qui était présent à cette réunion, et qui a informé Forcari de Libération. Voilà comment l'affaire a éclaté. À partir de là, évidemment, toute la presse s'est emparée de l'affaire, et bien évidemment, les autorités préfectorales ne pouvaient pas faire autrement que d'appliquer, d'une façon stupide et bornée, le règlement qui a empêché Jean-Marie Le Pen d'être président PACA. Voilà, comment ça a commencé comme ça.
Je n'ai toujours pas compris, monsieur de Bakech. Je ne comprends pas.
Monsieur Wauthier.
Jean-Marie Le Pen a été élu précédemment dans cette région. Bon, à ce moment-là, il avait déposé un dossier. Quelle est la différence de législation ou de réglementation entre cette première élection et celle à venir?
Il n'y a aucune différence, mais comme le dit Le Pen lui-même parfois, dans la loi française, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En gros, on pourrait dire que c'est passé une fois, mais c'est pas passé la deuxième. Et quand on a dit quand il a dit au tribunal administratif, enfin la dernière fois ça a été accepté, le tribunal a répondu oui, ben, ça aurait dû être refusé. Et donc cette fois-ci on le refuse.
Non mais la première fois, Jean-Marie Le Pen avait déposé une adresse qu'on peut appeler une domiciliation professionnelle.
C'est la même chose, monsieur Routier.
C'est la même chose.
C'est exactement la même situation. Donc voilà, une fois ils ont laissé passer, la deuxième fois ils auraient laissé passer s'il n'y avait pas un salopard qui avait informé d'autres salopards qui ont fait exploser l'affaire. Donc c'est ça qui s'est passé.
À un moment j'ai cru que un des adjoints de Jean-Marie Le Pen avait commis une erreur au moment de déposer le dossier.
Non,
vous voyez,
bon. Alors il y a eu d'ailleurs d'autres choses. On a l'impression que cette histoire a semé une espèce de panique totale. Par exemple, Farid Smaï a fait une déclaration. Moi, j'ai pas encore compris. Quand on lui a dit « Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de M. Macari en lieu et place de Jean-Marie Le Pen ?» Il a répondu « Oh, de toute façon, ça n'a aucune importance. En PACA, on présenterait un bourricot aux couleurs du Front National, il pourrait passer. » Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Qu'est-ce que c'est cette façon de parler?
Ah oui, c'est vraiment pour le moins maladroit.
Alors Macari, c'est un bourricot? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. Mais ils sont tous devenus fous, quoi.
Est-ce que vous me permettez de citer les propos de M. Macari lui-même sur France Info il y a deux jours, même s'ils sont un peu choquants pour moi-même, pour nos auditeurs? M. Macari a dit à France Info, je le cite, « Je ne peux me réjouir des nouvelles charges qui m'incombent. Fort heureusement, il est possible qu'elles ne durent qu'un mois. »
Qu'elle ne dure qu'un mois, c'est-à-dire jusqu'à l'élection. Moi, je comprends
ça
pas.
Ça veut dire « Fort heureusement, nous allons perdre » ou « Je comprends mal ».
Ou « Il espère encore un autre recours ».
Bon, dans un mois, ce sont les élections, monsieur Routier.
Tous les recours.
Donc, ce qu'il nous dit, c'est que ces nouvelles charges ne seront pas celles de président de PACA, mais celles de candidat, et que ce sera terminé dans un mois après les élections.
Écoutez,
fort heureusement, dit-il.
Comme vieux militant du Front National, moi, j'ai appris qu'on parle toujours trop devant la presse et devant d'ailleurs ces bigorneaux. Bon, on parle toujours beaucoup trop quand il s'agit de stratégie ou de tactique électorale.
Alors, on a au téléphone quelqu'un que je suis bien content de saluer. Allô, allô.
Allô.
Je chausse le... Allô.
Allô.
Oui, bonsoir monsieur l'abbé, comment allez-vous?
Fort bien, et vous-même?
Je vais fort bien. Je pense que nos auditeurs ont reconnu la voix de monsieur l'abbé Bouchacourt, qui a la gentillesse de nous parler depuis l'Argentine.
12 kilomètres.
Ça fait combien de kilomètres?
12 000.
12 000. C'est-à-dire que bientôt, si vous continuez à vous éloigner, vous allez vous rapprocher. Alors, j'ai voulu vous donner l'occasion de dire à nos auditeurs qui n'ont pas oublié combien vous avez été un prêtre précieux et un ami précieux quand vous étiez le curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, de leur dire un peu ce que vous devenez, ce que vous faites maintenant. Alors, comment s'est passée votre installation?
Alors, mon Dieu, l'installation s'est très bien passée. Le changement est quand même important. Le plus grand obstacle, je crois que ça a été la langue.
Oui, parce qu'on a dit que l'abbé Bouchacourt ne parle pas l'espagnol, mais c'est pas grave, parce que les Argentins non plus.
Bon, il faudrait quand même que je le parle un peu mieux. enfin, j'ai été remarquablement accueilli par les Argentins qui sont des gens extrêmement gentils. Et depuis maintenant 5 mois, je me suis transformé en globe-trotteur et je circule dans un district qui est long de 11 000 kilomètres sur 8 000 kilomètres de large. Et donc je visite les 30 prêtres qui sont en poste un petit peu dans différents pays d'Amérique du Sud. J'essaie de voir leurs besoins. J'essaie de voir aussi les aider dans leurs difficultés. Mon Dieu, tout ça, ça se passe bien. Mais c'est vrai que je fais connaissance avec un continent que je ne connaissais pas du tout. Et c'est un continent qui est encore très catholique. Et ça, je vous assure, pour le Français que je suis, c'est une surprise quand on voit les dégâts du laïcisme dans notre patrie.
Oui, oui. On vient d'en parler justement, là.
Oui.
Mais
il faut connaître aussi que l'Église catholique est extrêmement malade aussi là-bas. Les évêques sont aussi déficients qu'ils le sont en Europe. Et le drame, pour une région comme ici, le peuple est très religieux. Et les sectes font florès. Les sectes qui sont, il faut le souligner, qui sont alimentées, aidées par les États-Unis.
Oui, ce sont des moyens de pénétrer la population très, très efficaces. Comment êtes-vous accueilli, autrement par les fidèles en général ?
Très bien. Très bien. Et je dois même dire que, si vous voulez, la France garde une aura, je ne sais pas si elle mérite encore une telle aura.
Il ne faut pas leur dire la vérité, surtout.
Comment ?
Il faut pas leur dire la vérité.
Non.
Alors, ça suppose que vous êtes donc pratiquement tout le temps ou en avion ou en voiture à sillonner cet immense pays ?
Oui, beaucoup plus en avion qu'en voiture, d'ailleurs, parce que les temps sont tels. Vous voyez, je reviens il y a 3-4 jours du Brésil, où j'ai dû faire à peu près, dans tous les sens, un peu plus de 11 000 kilomètres.
Alors, vous êtes donc le responsable. Quel est votre titre exact ?
Alors,
vous êtes supérieur général de la fraternité ? Allô ?
Allô ?
Oui, vous êtes supérieur de la fraternité pour l'Amérique du Sud ?
Alors, supérieur du district d'Amérique du Sud. Voilà la responsabilité, si vous voulez.
Ça englobe donc, comme le nom l'indique, tous les pays d'Amérique du Sud.
Alors, c'est tous les pays, enfin là où on a des priorés donc au Chili, au Colombie, en République dominicaine, en Argentine, qu'est-ce que j'ai encore oublié je crois que c'est à peu près tout.
Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si vous voulez évangéliser le Brésil, il va falloir apprendre le portugais.
Alors ça, honnêtement, j'y renonce, non pas d'évangéliser le Brésil, mais de parler portugais, et dans la tournée que j'ai faite l'autre jour, j'ai pris un interprète avec un Français qui est là de la bouche, et qui a traduit tous mes propos.
C'est pas trop pénible cet éloignement, parce que vous avez vécu tellement longtemps à Paris, vous le vivez comment ?
Écoutez, ce serait parfaitement stupide de dire que ce n'est pas un arrachement, c'est un arrachement. Parce que, bon, ben, mon Dieu, la France, c'est un pays qui m'a nourri. J'ai été extrêmement attaché à cette paroisse de Saint-Nicolas qui m'a tellement donné. Mais vous savez, je suis très heureux, là, sur l'Amérique du Sud. Mais c'est difficile, l'apostolat est difficile. Si vous voulez, en France, on pêche au filet. En Amérique du Sud, on pêche à la ligne.
Ah oui. Alors en plus, le lac est quand même beaucoup plus grand.
Hein. Un peu plus grand. Parce que là aussi, il y a le drame un peu, c'est que les gens sont encore, comme là en France il y a peut-être 20 ans, 30 ans, font encore confiance aux évêques et ont peur des sentences qu'ils peuvent prononcer.
Et vous n'avez, j'imagine, que des relations extrêmement distantes avec les conciliaires.
Tu vois, je souhaiterais, moi, qu'ils ne fassent que les approcher pour leur dire ce que nous sommes. Mais ils font preuve, à notre égard, d'un sectarisme absolument effrayant.
Oui.
Effrayant.
Et est-ce qu'il y a des prêtres locaux, des prêtres argentins ou, disons, hispanisants qui ont rejoint la fraternité ou
Alors, certains viennent nous voir, absolument, et j'en ai encore vu, là, il n'y a pas longtemps, des prêtres qui découvrent totalement la messe de Saint-Pie-V, qui ont entendu, alors là, s'il faut reconnaître, c'est un bon moyen, qui ont entendu parler de nous en ouvrant Internet, qui sont intéressés, qui entrent en contact avec nous, qui demandent à célébrer, comment on fait pour célébrer la messe de Saint-Pie-V, et là, pour l'instant, on a 4 saints prêtres qui sont en train de l'apprendre et de revenir vers nous.
Est-ce que vous avez l'intention de revenir en France, ne serait-ce que pour un séjour privé, je dirais, avant longtemps?
J'espère bien, oui, j'espère, si, j'espère d'être ici un peu moins d'un an, pour deux raisons. D'abord parce que je serais très heureux de retrouver la France, et puis parce que c'est, le district est extrêmement pauvre, et pour essayer de, eh bien, de demander l'aide un petit peu à l'Europe, parce que c'est vrai qu'on est certains prêtres, on voit certains prieurés ici, nous manque non seulement de l'accessoire, mais du nécessaire.
Est-ce qu'on peut déjà commencer à donner une adresse à laquelle les auditeurs qui voudraient vous écrire, ou pour simplement vous écrire, ou pour vous aider, peuvent s'adresser?
Alors, si les personnes qui souhaiteraient d'abord, je vous en supplie, prier beaucoup pour nous, prier pour le séminaire dans lequel je me trouve, dont la rentrée va avoir lieu dans quelques jours. Il y a 4-5 rentrées qui se profilent. Mais bon, pour aider matériellement le district, vous pouvez envoyer vos dons à l'ordre de la Fraternité Saint-Pédis Amérique du Sud, et les envoyer, vous mettez à l'ordre de ma sœur, qui est mademoiselle, à l'adresse de ma sœur, mademoiselle Bouchacourt, 13 rue de Siam, 75 116 Paris.
13 rue de Siam, oui. 75-116 Paris.
75-116 Paris. Et là, eh bien mon Dieu, tout suit.
Bien, bah écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je sais que vous avez de très nombreuses obligations. En tout cas, la France est toujours aussi belle.
Oh, oui.
Elle est un peu moins depuis que vous êtes parti, mais enfin, on trouvera quelqu'un pour vous remplacer. Et puis vraiment de tout notre cœur, on vous souhaite une réussite entière dans votre nouvel apostolat.
Toutes mes amitiés à vos auditeurs, à vous-même et à tout, ben mon Dieu, à tout le monde.
Merci monsieur l'abbé.
Merci monsieur l'abbé.
Au revoir monsieur l'abbé.
Merci.
Voilà. Vous écoutez Radio Courtoisie, ma parole.
Mais absolument, enfin moi je suis en train d'y parler, vous l'écoutez. Donc c'était monsieur l'abbé Bouchacourt, ancien curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, aujourd'hui supérieur de du district Amérique du Sud de la Fraternité Saint-Pédis. Je ne sais pas si on se rend bien compte d'ailleurs ce que signifie d'être le fait d'être supérieur du district Amérique du Sud. C'est une responsabilité littéralement gigantesque, effrayante. Et vous avez pu entendre que l'abbé Bouchacourt a gardé cette gaieté qui était tellement un bonheur quand on le voyait à Saint-Nicolas, cette espèce de sainte gaieté.
Sa paroisse a drôlement grandi d'un seul coup.
Oui,
ça ressemble à un miracle.
Vous auriez dû, monsieur de Becketch, lui demander s'il avait vu des gauchos, s'il était allé rencontrer des gauchos.
Et des mineurs,
parce que là, il y a une population qui est probablement très intéressée par ce dont l'abbé Bouchacourt s'occupe.
Pierre Routier.
Très probablement.
Alors, monsieur Routier, c'est vrai que comme géologue, ce sont des questions.
Les mineurs ont souvent peur dans leur mine, ouais. Et ils se tournent vers le divin.
Ouais. Ben, ils ont bien raison.
Ils ont bien une déesse à eux, Pachamama,
ouais.
Mais ça ne leur suffit pas tout à fait.
Ça leur suffit pas des garanties un peu plus solides que ça.
Oui.
Donc Pierre Routier, je suis content de vous recevoir. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Des cailloux et des hommes » et qui est sous-titré « Mémoire d'un géologue nationaliste ». Alors ça paraît que c'est un peu comme... je sais pas, on pourrait dire...
Parachuté,
cheveux sur la... Plombier, zingueur, artiste, ou... Je sais que c'est curieux, géologue nationaliste.
Oui.
Est-ce que ça a de l'importance quand on est nationaliste d'être géologue, ou d'être nationaliste quand on est géologue?
Oui, quand un géologue, qui est un vrai géologue, et donc a beaucoup voyagé, qu'il a traversé de nombreux pays, qu'il a pris des contacts avec des populations variées, qu'il soit nationaliste, n'est pas... anormal, c'est même dans l'ordre des choses. Moi, j'ai eu à travailler dans 37 pays, sur les 4 continents, n'est-ce pas, à l'exception de l'Antarctique, et partout, enfin dans de nombreux pays, j'ai vu que les peuples souffraient de régimes tyranniques. Bien. Je ne me suis pas privé tout de même d'aller dans ces pays, car il aurait été stupide de n'y pas aller sous prétexte de pureté morale, puisque j'avais besoin scientifiquement d'aller dans ces pays pour examiner des gisements de métaux. Alors, quand on a voyagé dans, sous de nombreux régimes, si j'ose dire, qu'on a écouté des souffrances, j'avais beaucoup de collègues en Tchécoslovaquie ou ailleurs qui m'ont dépeint les vices du régime dans lequel ils vivaient. Et on pense un peu plus à son propre pays. Et c'est ainsi une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé de plus en plus à la dégoulinade de mon pays et que je suis devenu nationaliste dans un sens non belliciste certes, mais polémique et martial.
Qu'est-ce que le fait d'avoir acquis une connaissance de la géologie, qui est une science, la science de la terre, la science des minéraux, est-ce que ça peut apporter quelque chose à la pensée? Je vais plus loin. Quand on comprend très bien qu'un spécialiste des animaux, par exemple, peut, à force d'observer les animaux, se dire, ben voilà, il y a des leçons de vie. Un spécialiste de la faune, de la flore, pareil, j'ai entendu souvent des spécialistes de la flore dire, on voit par exemple qu'il y a une espèce d'implacable injustice dans la flore qui fait que l'arbre, grand arbre, tue absolument toutes les pousses qui sont autour de lui et qu'il n'y a absolument aucune possibilité de survivre.
La lutte pour la vie. Voilà. La lutte pour la vie.
Alors, est-ce que cette pensée peut aussi venir du contact avec les pierres?
Oui, là vous me prenez un peu au déboté, mais je vais vous répondre tout de même, je crois assez correctement. La paléontologie, qui est une des branches très importantes des sciences de la Terre, nous enseigne quoi? Des choses que nous voyons tous les jours. Il y a des Bernard Tapie dans le monde animal, bon, et puis il y a des pauvres moutons qui se laissent tendre.
Bien. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y ait des Bernard Tapie dans
pardon?
Le monde. Ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y ait des Bernard Tapie dans le monde animal, c'est qu'il y en ait dans le monde humain. C'est quand même extraordinaire qu'il puisse, après tant d'années d'évolution, parce que je suppose que vous êtes évolutionniste.
Ah oui, après tant d'années d'évolution, ah oui. Alors Teilhard de Chardin, vous savez, vous l'avez peut-être noté au passage dans mon livre, rêvait d'une sphère de l'esprit.
La noosphère.
D'une noosphère, c'était le mot qu'il utilisait, et d'un point oméga, enfin des trucs assez métaphysiques, à sa manière, ou plutôt pataphysiques, mais c'était tout de même un grand croix. C'est un truc que je n'ai jamais bien compris. D'ailleurs, c'est l'acharnement de quelques catholiques. C'est probablement un petit club qui trouvait que Teilhard de Chardin aurait fait dégénérer la pensée catholique. Je ne le crois pas. Quand on a lu quelques œuvres de Teilhard de Chardin et qu'on voit à quel point il aimait Jésus, c'est une déclaration d'amour.
Il aurait fait un très bon évêque conciliaire.
Oui. Non, alors moi j'ai pris Teilhard de Chardin en affection à cause de ça, parce que je ne suis pas croyant, mais j'aime les croyants qui ont le courage de dire leur croyance.
Mais ça vous viendra, vous verrez.
Pardon ?
Ou ça vous viendra.
Oui.
Un jour ou l'autre, ça vous arrivera. Il y a une chose, quand on ouvre votre livre, on voit, en première partie, enfin la première page, il y a un recensement qui est probablement incomplet d'ailleurs des œuvres que vous avez réalisées, enfin des œuvres que vous avez écrites, des travaux que vous avez réalisés. Et ça part un peu dans tous les sens, si j'ose dire. Il y a de la philosophie, il y a de la réflexion politique, il y a de la réflexion, naturellement, il y a des travaux de géologistes. Est-ce qu'il y a un trait d'union? Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça?
Ah oui, alors s'il y a un trait d'union, bon, je voudrais d'abord, si vous permettez, nous disposons de combien de minutes?
20 bonnes minutes.
20 bonnes minutes. Bon, si vous permettez, je vais rappeler un peu les grandes orientations des ouvrages que j'ai publiés. Au cours de 40 ans de vie académique et de recherche, j'ai publié, disons, pour simplifier, deux gros bouquins sur les gisements de métaux, sur la géologie des gisements de métaux. C'est un monde. Bon, vous me direz que n'importe quel domaine scientifique, dès qu'on l'explore à fond, devient un monde. Et c'est bien le cas. Tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié qu'on ait parlé de Ribot. Mais j'essaierai de glisser quelque chose sur lui tout à l'heure, parce que j'ai ici, vous voyez, monsieur de Beckett, une lettre de Ribot qui m'a comblé de joie. Je vous la montre. Vous n'êtes pas forcé de la lire au micro.
C'est une vraie
mais
lettre.
C'est vraiment...
Il vient de prison, d'ailleurs.
Alors, ça m'a donné l'occasion d'écrire dans Rivard parole un petit article intitulé « Cellule 258 ». Bon, j'en reviens donc à mes écrits. Vous avez raison de souligner qu'ils paraissent un peu dispersés ou dispersifs. Bien. Ben, j'ai d'abord exercé mon métier de géologue spécialisé dans ce domaine, qui enseignait ce domaine à la faculté des sciences de Paris, devenue tristement une université polydisciplinaire en 1968, qu'on a appelée l'université Pierre et Marie Curie. Et puis, toute ma vie, j'ai trouvé que la vulgarisation, en ce qui concerne la géologie, la popularisation était maladroite, lourde, mal écrite, vous voyez. Pour que la popularisation passe la rampe, il faut la bien écrire comme un littéraire. Bon, ça me préoccupait. Alors, ça vous explique qu'après ma retraite, quand j'ai eu enfin le temps de changer de style, de changer d'écriture. Faut changer d'écriture. Bon. J'ai écrit deux bouquins de vulgarisation, dont un qui a eu un bon succès aux éditions Belin, intitulé Voyage au monde du métal, invention et aventure, où vous trouvez des personnages aussi intéressants que Périclès et que Phidias, et des thèmes aussi intéressants que l'ascension de la cité-état d'Athènes grâce à l'argent qui était à 30 km à l'est de cette ville, au Laurion.
C'est donc, oui, c'est alors, ça. C'est très intéressant, c'est le fait que vous utilisez de vos connaissances comme le germe d'une réflexion.
Non, là, mes écrits de popularisation sont évidemment dérivés rapidement de mon œuvre scientifique principale. Mmh. Ça, aucun problème. Alors, comment glisse-t-on de la popularisation scientifique à la popularisation politique? Alors, le trait commun, c'est que dans mon foutu caberlot, j'ai toujours été obsédé par les nécessités de se documenter énormément à fond et de faire des synthèses, fussent-elles momentanément un peu acrobatiques, artificielles. J'ai assez bien réussi cette opération dans mon domaine scientifique, et je me suis dit, bon Dieu, je lis des journalistes très talentueux dans présent, d'Henri Barol, comment y suis-je venu? À cause de 68. Faut faire constamment des retours historiques en arrière. Moi, en 68, j'ai eu la révélation que de petits bonimenteurs pouvait foutre en l'air un pays. Alors, par étapes, lancer les germes qui empoisonneraient ce pays. Quand je vois Daniel Cohn-Bendit revenir grâce à l'alliance écolo-européen, ça me donne des démangeaisons dans le pied droit. Bien, alors en 68, j'ai eu cette révélation, et finalement, j'ai viré totalement ma cutie. Mon identité politique avant 68, je ne saurais très bien la définir. J'étais un gars un peu méfiant à l'égard du pouvoir, qui se répète souvent que tous les pouvoirs ont une fâcheuse tendance à en abuser. Bon. Mes parents, quand j'avais 16 ans, 17 ans, étaient plutôt de gauche, mais faut se remettre dans l'époque. Ceci, j'ai 87 ans aujourd'hui, monsieur de Beckett.
C'est étonnant, vraiment.
Vous m'avez interrogé ici sur un ouvrage de popularisation politique qui s'appelait Contrepoison. Oui. Il y a probablement 7 ans.
Oui.
Publié modestement aux éditions nationales à 500 exemplaires, parce que j'espère que vous parlez de temps en temps du lot des auteurs d'extrême droite, puisque j'en suis un, de leur triste lot. Trouver un éditeur qui soit pas trop fumiste, ne pas être roulé par ce petit éditeur qui se dit d'extrême droite mais qui peut être un salopard, ça arrive. J'ai connu ça.
J'ai peur de le croire.
Et surtout, troisièmement, diffuser. Alors, quand on tire un ouvrage à 500 exemplaires et qu'on ne reçoit aucune lettre de lecteur. Je parlerai des réactions des lecteurs tout à l'heure, c'est très intéressant. Je vous dirai quels ont été mes meilleurs lecteurs, parce que je suppose ça intéresse les auditeurs, qui sont en même temps, j'imagine, des lecteurs. Alors j'en reviens au glissement de la popularisation scientifique à la popularisation politique. Puisque j'étais passé avec armes et bagages, si j'ose dire, en 84, année de ma retraite, je commence à potasser de la littérature dite d'extrême droite, de Drummond à Serge Beketsch, quoi. Bon, et à Brignot, bien sûr. Et je me consolide dans mes arguments intérieurs. Bien. 84. Et je travaille. Et puis, je milite au Front National. Je ne peux pas vous dire que j'ai collé énormément d'affiches et distribué beaucoup de tracts, mais je l'ai fait avec des bons militants de base. Et puis, je suis arrivé au Conseil scientifique du Front National, dont je n'ai jamais été totalement satisfait, mais Jean-Marie Le Pen le sait, d'ailleurs. Je l'ai écrit dans un précédent ouvrage, dans Pour flinguer Big Brother. Voilà. Et j'ai été très heureux au Conseil scientifique du Front National. Le président était alors Jacques Robichet. C'était un littéraire un peu autoritaire, mais comme je ne le suis pas moins, on ne s'est pas trop engueulé. Et finalement, nous étions au milieu de personnes cultivées, intelligentes, qui essayaient de proposer des sujets de colloque aux autorités du Front National. Bon. Alors, baignant dans ce bain, j'ai été persuadé que Jean-Marie Le Pen, quoi qu'on en pense, c'est qu'il peut, comme vous et moi, avoir des petits défauts, est un grand homme. Je l'ai découvert sur Antenne 2 en février 1984 dans l'heure de vérité. À partir de ce moment-là, mon opinion sur lui n'a jamais oscillé beaucoup. Et je m'en suis encore persuadé récemment à partir d'autres faits. Bien. Alors je me suis dit, mon vieux, toi qui es un intello, toi qui es un bonhomme ardent aux synthèses, si tu veux rendre un service au Front National, c'est peut-être pas d'aller coller des affiches avec des militants, c'est d'écrire à ta manière d'intello. En étant aussi lisible que possible, puisque je m'étais entraîné un peu dans la vulgarisation scientifique, je me suis dit, entraîne-toi à une espèce de vulgarisation politique. Ça a engendré Contrepoison, donc, qui était un ouvrage naturaliste. Voilà un mot qu'il faut pas que j'omette de prononcer, naturaliste, parce que autrefois j'ai fait une agrégation de sciences naturelles, il n'y a pas que la géologie qui m'intéresse, vous pensez bien, tout à l'heure vous avez parlé des êtres vivants, bon, et de l'importance de la paléontologie qui nous donne sur l'histoire, sur notre histoire, des éclairages si puissants. Et j'ai écrit d'abord Contrepoison, donc ouvrage naturaliste, où j'ai prétendu ou essayé de démontrer que le programme du Front National était conforme aux lois, au sens scientifique du terme, du monde vivant et aux lois qui régissent les sociétés humaines. Non. Par exemple, la notion de territoire. Hein, bon, qui n'a pas de territoire ou de niche en ce bas monde est foutu. Bien.
Les travaux de Konrad Lorenz, notamment sur...
Pardon ?
Les travaux de Konrad Lorenz sur
oui, voilà, ouais, le territoire. Ouais, voilà. Parmi les nombreux éthologues qui ont rendu grand service. Bien. Et puis je me suis dit, ben, glisse un peu plus vers le politique. Et j'ai écrit un bouquin pour lequel un certain de Beketsch a écrit un compte-rendu dans le Libre Journal, que vous aviez intitulé, monsieur de Beketsch, que vous aviez intitulé « Routier écrase bébé ».« Routier écrase Big Brother ». Oh, c'était gentil. Ça m'avait épaté et terrifié à la fois. Mais hélas, je ne l'ai pas écrasé. Il n'est pas prêt de l'être complètement. Néanmoins, bon, enfin, c'est un autre sujet. Savoir s'il régresse ou s'il progresse.
On le saura à la fin. Pour l'instant, on sait très difficile à dire. En tout cas, le livre était extrêmement...
En d'autres termes, les glissements, ou plutôt l'espèce d'excessive variété qu'il y a dans mes publications, s'explique par des glissements, des adaptations progressives, et la prise de conscience, fondamentalement la prise de conscience, que quand on est retraité d'une science, il est plus utile d'informer ses concitoyens dans le domaine politique que de continuer à bricoler dans cette science. Voilà.
Alors, il y a un autre aspect de votre personnalité, mais je voudrais pas qu'on l'évoque ce soir. Je voudrais vous demander de revenir pour en parler plus longuement, parce que c'est tellement extraordinaire. C'est-à-dire que quand on vous entend, quand on voit le géologue, le savant, on peut employer le mot, l'intellectuel, vous dites vous-même, l'écrivain, l'homme de réflexion, et qu'on sait ce qui s'est passé en 1949, quand vous êtes évadé de Nouvelle-Calédonie, je trouve que ce serait intéressant que vous nous racontiez cette partie de votre personnalité, parce que c'est, mais pas ce soir. Je voudrais que vous reveniez pour ça, qu'on prenne un peu de temps, parce que c'est tellement, à mon avis, c'est tellement important de montrer combien chez un homme de réflexion, un homme de cabinet, un homme de recherche, et puis un homme de science, il y a aussi la dimension d'un baroudeur, d'un personnage totalement inattendu, qui joue un rôle dans la fabrication du personnage. J'aimerais bien que vous reveniez pour nous raconter ça.
Oui,
en plus,
oui.
Vous racontez très bien, et c'est...
Volontiers.
En revanche, pour terminer, ce que je voudrais vous demander, c'est de nous parler de Claude Allègre.
De Claude Allègre, oui.
Vous l'avez très bien connu.
Oui, alors, commençons par le sujet le plus drôle. Alors,
je voudrais ajouter un mot, si vous permettez, avant.
Oui.
C'est que, curieusement... Ça va peut-être vous choquer. Je me demande si Claude Allègre ne vous ressemble pas un petit peu. Je ne sais pas si c'est... Pas physiquement, je veux dire.
Mais dans une espèce je vais vous dire en quoi
de liberté de la parole, de liberté de l'expression, il y a cette espèce d'amusement permanent.
Je vous réponds. Alors, je vous réponds... Bon, puisque votre dernier mot est à propos de Claude Allègre, je vais vous dire la grande différence qu'il y a entre nous. C'est, premièrement, que Claude Allègre était dans le milieu académique un serial killer. C'est-à-dire qu'il se baladait. Il se baladait dans les couloirs. Il était mon assistant, hein, dans les premières années 60. Il était mon assistant au laboratoire de géologie appliquée de la Faculté des sciences de Paris. Il se baladait dans les couloirs en débinant à peu près tous les collègues et en disant, d'ailleurs, le professeur Routier est d'accord avec moi. Alors c'était vrai dans quelques cas. Moi, je n'ai jamais été un serial killer. J'ai la dent dure, mais je suis beaucoup plus sélectif dans mes sévérités que n'était Allègre. Il a réussi à démolir ou à freiner ainsi un bon nombre de gars, et il a réussi à imposer sa propre petite équipe qui est devenue rapidement plus ou moins un gang. Bon, il est parmi les gangs et les talibans aussi, parce que c'est un autre aspect. Il y a une autre différence entre Claude Allègre et moi, considérable.
C'est que vous n'êtes pas socialiste.
Il est crypto-trotskiste.
Je ne pensais même plus à celle-là.
Monsieur Routier, on dit que c'est un crypto-trotskiste de la secte Lambert. Est-ce que vous avez des lumières sur ce bruit?
Non, je n'ai pas de lumière, parce que nous ne parlions pas de politique quand il était dans dans le laboratoire que je dirigeais. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est une différence qui devrait être fondamentale tout de même à vos yeux, aux yeux de mon intervieweur. Bon, c'est Claude Allègre écrit
comme un Claude Allègre.
Avec un poteau télégraphique, tandis que moi j'ai la prétention d'écrire un peu mieux.
Non, mais il faut que je vous fasse un aveu.
Vous me consentez.
J'ai lu Routier, mais j'ai pas lu Claude Allègre. La vie est vraiment trop courte.
Ah oui, alors moi je l'ai lu deux fois, notamment dans un ouvrage. Ah, bonsoir, le titre m'échappe pour l'instant, que Monsieur Balladur avait emporté en vacances à Chamonix.
Oui, mais vous savez, en montagne, quand on n'a pas les
lumières, c'est dur de dormir. Ça remonte à une dizaine ou une douzaine d'années. Bon, un ouvrage de géologie où Claude Allègre prétendait raconter l'histoire de la Terre et un peu du monde vivant, mais le monde vivant est beaucoup moins doué pour ça. Sans une figure. Vous imaginez un livre de géologie sans une figure? La géologie sans figure, ça parle pas. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a quelques-unes dans des cailloux et des hommes.
J'aime bien le titre, d'ailleurs. Des cailloux et des hommes. Le caillou, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie.
J'ai essayé de mettre un peu des cailloux, des histoires de cailloux. Il se trouve, figurez-vous, qu'un directeur d'émission, non, c'est pas votre titre, c'est pas directeur, c'est
si, on appelle ça directeur
responsable,
d'émission.
Bon, directeur d'émission, qui m'avait d'abord promis de m'inviter à propos de ce livre, parce qu'il avait adoré Pour flinguer Big Brother, lui, a fini par me dire au téléphone, il y a trop de cailloux dans votre livre, voilà.
Dans vos lentilles.
Bon, alors, évidemment, si j'étais boulanger et que je parle pas de la technique de fabrication du pain, on dirait il se fout de nous, ce bonhomme. Bon, alors j'ai écrit des cailloux et des hommes en entremêlant ça aussi bien que je pouvais. C'est pas toujours commode. Et bien alors, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, mais qu'est-ce que c'est que cette aventure de Nouvelle-Calédonie ?
Mais ça, vous allez revenir pour nous en parler longuement.
D'autant qu'il nous reste 2 minutes, Serge.
En 2 minutes, vous ne pourrez pas. Alors, on va prendre rendez-vous juste après. Là, j'ai une petite surprise pour vous.
Non, mais un autre jour.
Ah oui, un autre jour.
Ah bah, un autre jour.
Pas dans la soirée.
Mais n'oubliez pas une chose, c'est que j'ai perdu l'équilibre depuis 6 mois maintenant.
Ça ne se voit pas du tout.
Non, non. Mais assis, je me défends encore assez bien. Mais si vous comparez à la forme olympique ou olympienne que j'avais quand je suis venu il y a 7 ans...
On ne vous demandera pas de faire un numéro d'acrobatie, on vous demandera simplement de nous raconter vos aventures Nouvelle-Calédonie.
D'accord.
Merci, professeur Routier. Alors, je rappelle le titre de votre livre, qui s'appelle « Des cailloux et des hommes
». Mémoire d'un géologue nationaliste.
Qui s'est paru aux éditions de l'Encre. Et je signale effectivement qu'il y a là-dedans des illustrations qui aident à la compréhension du sujet qui n'est
cher
pas...
Cher ami, je crois qu'il faut dire que ça s'achète à la librairie nationale.
Et ça s'achète
parce
à la librairie
c'est
nationale.
Pas évident.
12 rue de la Sourdière, voilà. 7501 Paris, et il faut... C'est quoi? C'est 23 euros. Voilà. Et bon, ajoutez 4 euros de port.
Et alors, ce qui est drôle, c'est que la dernière de couverture se termine par la devise... des géologues qui vous va très très bien, je trouve. Hein? Cum mente et maleo, avec l'esprit et le marteau.
Ah oui, c'est
vrai. Vous écrivez vraiment avec l'esprit, et quand vous avez quelque chose à dire, vous ne l'envoyez pas par la poste, vous l'envoyez plutôt un coup de marteau.
Excusez-moi, monsieur Routier, mais il nous reste
une minute. Allez-y, je vous en prie.
Pour faire des annonces. Combien j'ai apprécié la petite variation que vous avez faite tout à l'heure sur des et les. C'est-à-dire que le mensonge en question, c'est la généralisation abusive. Et pour un scientifique, c'est très grave aussi.
Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Des annonces ?
Alors, je rappelle le... Non, Victoria, rien. Alors,
si, moi j'en ai.
Ah bon, alors je me dépêche. Et en l'église Sainte-Rosalie, le dimanche 7 mars à 16h, Yuri Fedorov et Ludmila Fedorov, soliste du Philharmonique de Kiev, c'est un concert gratuit, métro Corvisart, à l'église Sainte-Rosalie. Et donc, moi, je serai à Lille samedi 6 mars avec Flandre Identité. On téléphone à Xavier au 06 79 72 33 50. Et en dernier lieu, j'ai oublié tout à l'heure de donner le site du Libre Journal, francecourtoise.info.
Alors, samedi prochain, 28 février, de 15h à 18h30, la librairie France Livre accueillera Daniel Amiche à l'occasion de la parution de son livre « La passion de Mel Gibson de A à Z ». Librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Les rencontres culturelles de Paul Biller sont consacrées le samedi 28 février à Saint-Martin de Porès. Rendez-vous à 15h, Café Le Bourbon, 1 place du Palais Bourbon, métro Assemblée Nationale. Pour aider les chrétiens de la Terre Sainte à s'y maintenir au lieu d'émigrer, l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem organise 2 journées d'entraide, 48 heures pour la Terre Sainte. Elles ont lieu le samedi 5 et le dimanche 6 mars à la maison paroissiale de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, 15 place Étienne Pernet, Paris 15e. Pour le 41e anniversaire de la mort du colonel Jean-Bastien Thiry, fusillé le 11 mars 1963 au fort d'Ivry, sa famille, ses amis et le cercle Jean-Bastien Thiry vous invitent à venir au cimetière de Bourg-la-Reine pour une cérémonie du souvenir, le dimanche 7 mars à 15h, et à participer à la messe qui sera célébrée en la chapelle Notre-Dame des Armées, 4 impasse des gendarmes à Versailles, le jeudi 11 mars à 19h.
Merci de passer votre soirée en notre compagnie. Je vous rappelle qu'à 21h tout à l'heure, vous avez rendez-vous pour votre rendez-vous habituel, les soirées musicales, séries de jazz, les musiques de films et les grands pianistes. Et puis tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, nous sommes un petit peu en retard, pardonnez-nous, il est 19h31. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel.